Bonjour et bienvenue sur L'Arpenteur, un podcast où on vous parle de jeux de rôle en solitaire. Le jeu en solitaire, c'est du JDR, sans MJ, sans joueur, et vous êtes seul pour remplir ces deux rôles. Il existe des jeux dédiés à cette façon de jouer, mais aussi de nombreuses méthodes pour adapter n'importe quel jeu ou presque. Dans ce podcast, je vous présenterai des jeux, des gens qui y jouent et des méthodes. Pour ne pas trop prendre sur votre temps de jeu, on tâchera de garder un format court et varié. Si ça vous plaît, partagez sur vos réseaux, commentez, mettez des étoiles, des pouces, vous savez faire. Pour cet épisode pilote, commençons par évoquer le jeu qui a fait basculer beaucoup de monde vers le jeu en solitaire. L'Arpenteur, des jeux en solitaire. Iron Swan est un jeu créé par Sean Tompkins et traduit par Thomas Pereira pour la Caravelle en 2018. Vous pouvez jouer à Iron Swan en solo, en coop ou avec un MJ. C'est un jeu dont le système est dérivé d'Apocalypse World et dont il reprend de nombreux codes. Dans Iron Swan, vous jouez un héros ayant juré sur le fer d'accomplir une quête qui lui fera traverser une terre pleine de dangers où se sont installés ses ancêtres. Au cours de vos voyages, vous rencontrerez les habitants des terres de fer. Vous vous battrez, vous nouerez des alliances et vous prononcerez vos propres vœux, jusqu'à l'accomplissement de vos quêtes ou la mort. Un des points forts du jeu est de proposer un univers cohérent et avec une forte identité, tout en préservant sa rejouabilité à travers une phase de construction d'univers en amont du jeu. Les terres de fer apparaissent très inspirées d'une imagerie nordique, viking, islandaise, infusée par la mythologie, les sagas et la culture populaire. Mais ce sera à vous de décider des détails et de vous approprier les lieux, leur culture et leurs habitants. Le jeu vous pose une série de questions avec des options à choisir pour ménager votre créativité, car le jeu en lui-même sera exigeant de ce point de vue. Par exemple, vous pourrez démarrer une partie en choisissant une organisation sociale complexe et une magie omniprésente, ou peut-être une terre divisée en tribus isolées et très religieuses. Peut-être que les trolls attaquent régulièrement les villages ou qu'ils font partie de légendes à moitié oubliées. Pour faire avancer l'histoire, dans Iron Swan, on utilise des actions codées par le système. Ces actions dictent la suite du récit en fonction du résultat des dés, dans la grande tradition des jeux propulsés par l'Apocalypse. C'est d'ailleurs probablement le jeu PBTA qui présente le plus d'actions différentes répertoriées. Celles-ci sont classées en plusieurs catégories. Les actions d'aventure, qui permettent de gérer voyage, exploration, ravitaillement et enquête pour le personnage. Les actions relationnelles, qui permettent de gérer les interactions sociales du personnage. Les actions de combat, pour gérer les combats, évidemment, selon le degré de détail qu'on veut leur accorder. Les actions de souffrance, pour gérer l'attrition et les revers auxquels est soumis le personnage, souvent en conséquence d'un échec sur les autres actions. Les actions de quête, qui gèrent l'évolution et la progression du personnage. Et enfin, les actions du destin, qui permettent de gérer les situations où s'exprime la résistance du monde ou l'intervention des oracles. C'est l'alliance harmonieuse de cette multitude d'actions et de la gestion du hasard et de l'inspiration du joueur grâce aux oracles qui fait, à mon sens, la richesse du jeu. Les oracles forment un corpus plutôt bien fait de tables aléatoires permettant de générer à la volée un grand nombre de situations de jeu. Votre personnage est défini par des caractéristiques et des atouts qui vont de la sorcellerie mineure à la présence de compagnons fidèles, en passant par des métiers ou une expertise aux armes. Mais ce qui va lui donner du corps, ce sont ses liens avec les habitants et les communautés des terres de fer, ainsi que les vœux qu'il prononce. Les vœux sont les quêtes qui structurent votre partie. C'est en les accomplissant que le personnage grandira et obtiendra de nouveaux atouts. Prononcer de nouveaux vœux permet de faire apparaître des intrigues secondaires et d'enrichir la légende de votre personnage. Iron Swan est un jeu passionnant. Un jeu exigeant pour la créativité des joueurs et relativement lourd et complexe du point de vue mécanique. Si vous n'aimez pas gérer des règles ou faire de nombreux lancers de dés, vous pourrez vous contenter des oracles pour explorer les terres de fer. L'univers proposé est assez robuste pour ça. Mais de mon point de vue d'amateur de mécanique, c'est un peu passé à côté de ce qu'offre le jeu. Il ne vous reste plus qu'à lancer une partie pour vous faire votre propre opinion.
L'Arpenteur, des entretiens avec des joueurs.
Pour nous accompagner dans ce premier numéro de l'Arpenteur, nous recevons Samuel Zitterman. Samuel est un rôliste qui pratique l'essentiel de son activité en ligne, notamment en stream sur Twitch, sur sa chaîne S. Zitterman, ou sur YouTube. Il a aussi diffusé plusieurs parties de jeux de rôle en solitaire, comme nous allons le découvrir lors de cet entretien. La première question que j'ai pour toi, c'est comment est-ce que tu as découvert le jeu solo? Comment est-ce que tu t'es rendu compte que ça existait? Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel pour toi en tant que rôliste, ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé plus tard?
Alors, je pense que, comme beaucoup de personnes, j'ai eu l'impression de découvrir les jeux solo via les livres dont vous êtes le héros. Disons, voilà, on a tous eu plus ou moins cette première lecture et cette première découverte de ce genre de livres et d'aventures. Mais pour moi, ça se détache pas mal par rapport à la pratique du jeu de rôle solo. Donc, peut-être qu'on en parlera. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était ma première expérience là-dessus. Et avec l'activité de la chaîne, je cherchais des formats sympas à faire, à proposer, et tant qu'à faire, découvrir aussi de nouvelles pratiques. Et je suis tombé par hasard sur Iron Sworn. Parce que du coup, à ce moment-là, j'étais pas mal en recherche de jeux propulsés par l'apocalypse. Et comme c'est un peu un enfant de cette mouvance, je suis tombé dessus. Et du coup, j'ai vu le libellé solo. Là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est? On peut jouer à un jeu de rôle solo? Vraiment? Et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai exploré Iron Sworn, je l'ai lu. Je me suis dit, ouais, ça peut le faire, ça a l'air cool. Et puis surtout, je suis tombé sur tes vidéos. Ça tombe bien,
du coup. Ah, ça tombe bien. Ok, donc effectivement, tu dis jeu solo, jeu... on parlera d'Iron Sworn peut-être, et on parlera surtout des autres jeux auxquels tu as joué, mais tu dis jeu solo différent de livre dont vous êtes le héros. Alors, où est-ce que tu places la différence entre les deux?
Alors, la différence entre les deux, c'est que dans le livre dont vous êtes le héros, alors c'est souvent la première remarque qu'on te fait. Ah oui, tu fais du jeu de rôle solo, c'est comme les livres dont vous êtes le héros. Là, je dis non, pas tout à fait, en fait. Pour moi, la grosse différence, c'est que les livres dont vous êtes le héros, ben, on va te servir à un script, des étapes, des rails, en fait. Alors, ça peut être riche, hein, mais c'est ni plus ni moins qu'une succession de portes et de couloirs et de voies multiples. Tu peux pas sortir de ça, puisque c'est écrit à l'avance, et tu fais juste que cheminer là-dedans. Là où le jeu de rôle solo, a priori, tu ne sais pas à l'avance ce qui va se passer, et surtout, rien n'est écrit. Donc, les voies et les chemins sont multiples, et ne sont pas définis, en fait. Pour moi, la différence essentielle est là, et c'est ce qui fait aussi pour moi l'excitation et le piment des jeux de rôle solo. C'est de jouer pour voir ce qui va se passer, et surtout sans connaître ce qui va se passer, quoi. Ou sans que qui que ce soit ne connaisse ce qui va se passer. Voilà.
Ben justement, ça m'amène à une question que j'avais envie de te poser. Là, tu nous montres bien la différence pour toi entre les deux livres dont vous êtes le héros, jeu solo. Mais si on étend un petit peu en comparant jeu solo et jeu en groupe, est-ce qu'il y a dans tes expériences de jeu solo, est-ce qu'il y a des moments ou des choses que tu as pu faire que tu ne peux pas faire ou que tu fais moins souvent en groupe?
Alors, c'est une question intéressante. Quand je joue en groupe, du coup, les données sont différentes parce que tu es obligé de prendre en compte les envies, les attentes et aussi de demander le consentement des autres joueuses et joueurs sur certaines choses. Alors que là, en jeu solo, en fait, t'es seul avec toi-même et du coup, tu connais tes envies, tu connais tes ententes et a priori t'es d'accord avec toi-même, donc tu peux y aller à fond. Je crois que j'ai jamais joué autant Play to Lose en jeu solo, quoi. Parce que du coup, tu peux te donner à fond là-dedans, tu peux faire vivre à peu près ce que tu veux à ton personnage, là où avec certains PNJ que tu vas proposer à la table ou certains personnages joueurs, tu pourras peut-être pas aller aussi loin parce que t'as pas le contrôle entier des PJ, ou alors on joue pas au même jeu. Voilà, ce genre de choses.
À quel jeu t'as eu l'occasion de jouer en jeu solo?
Alors j'ai joué à Iron Sworn, bien évidemment. J'ai joué à La Dérive, Adrift, du coup, qui est un jeu solo en quasiment une page ou deux, qui est un jeu propulsé par l'apocalypse dans lequel on joue un astronaute qui est en sortie extravéhiculaire et il arrive un incident et donc on se retrouve à la dérive dans l'espace. Et il est plutôt bien foutu, il y a trois jauges, dont l'oxygène qui te permet de jeter 2d6 plus oxygène. Au fur et à mesure, elle descend, donc tu arrives vers le moment fatidique. Et c'est un jeu qui est vraiment basé sur l'introspection, l'exploration des sentiments du personnage, de ses regrets, etc. C'est un jeu, la partie elle a duré une heure, mais c'était assez intense et assez bouleversant. Et j'ai joué aussi à Kill, alors Kill Noir, la version roman noir, Kill qui est un jeu épistolaire, je reviendrai dessus, donc là, Kill Noir, la version roman noir, et Kill, la version Encre et Pénombre, donc version Cthulhu. Et donc Kill, c'est un jeu épistolaire, alors un jeu épistolaire solo, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais du coup le principe c'est que tu écris des lettres, avec quelques mécaniques qui vont venir te guider au niveau des mots que tu dois insérer et du ton de la lettre. Et puis après, tu compares le résultat de ta lettre à un certain seuil et tu vois si elle est bien perçue ou non. Donc ça, c'était intéressant à faire. Et voilà, c'était mes trois principales expériences. Mais j'en ai d'autres qui me trottent et qui verront le jour, je pense.
D'accord. C'est bien parce que c'est une des questions que j'ai pour un peu plus tard. Encore une question pour toi, justement, puisque tu nous parles de ces trois jeux, est-ce que tu as réussi à te faire une idée de ce que tu attendais d'un jeu conçu pour du jeu solo ?
Oui. Pour moi, il y a des choses qui sont essentielles. Il faut que la personne qui crée un jeu solo donne les outils pour pouvoir créer la fiction de manière émergente. Parce que du coup, par exemple, je serais frustré si je me retrouvais dans une espèce de livre dont vous êtes le héros. Non pas que c'est pas bien, hein, c'est pas la question. Hein. C'est juste que c'est pas tellement ma came. Je préfère me faire surprendre et ne pas savoir ce qui va arriver et de me dire waouh, ça vient d'émerger là maintenant et c'est génial. Je trouve ça beaucoup plus grisant. Et du coup, c'est vrai que si le jeu est bien fait et qu'il te donne des outils, des billes pour ça, c'est un plus. Je pense notamment, je vais parler de ce que je connais à la dérive. En fait, ils te donnent des mots-clés, des thématiques quand il t'arrive quelque chose. Et du coup, tu vas aller explorer ça sous le prisme de ton personnage. C'est des choses très, très génériques et qui donc s'adaptent à tout. Et c'est un peu le même principe avec les oracles d'Iron Sworn. Et du coup, c'est vrai que d'avoir un cadre assez fort et des outils qui te permettent de faire émerger de la fiction sont pour moi des choses assez, assez essentielles pour ne pas se retrouver seul, parce que sinon c'est très compliqué, à mon avis. Et du coup, de jouer le jeu, de se dire, en thématique, j'ai trahison et corruption, admettons, et du coup, je vais devoir faire avec ça, et pam, ça colle, et puis on continue, on enchaîne l'histoire. Quoi.
Tu prépares pas mal de parties en groupe sur ta chaîne Twitch. Régulièrement, tu fais des sessions de préparation. Est-ce que tu as déjà eu envie ou idée de te faire des sessions solo sur les jeux que tu prépares ?
Oui, clairement. Dans l'un d'entre eux, j'ai déjà joué deux fois de Sprawl. Où là, j'aimerais bien, un de ces quatre, faire une campagne solo sur ce jeu-là. Et oui, carrément. Ça me trotte depuis un moment et j'aimerais bien me le faire. Donc pourquoi ? Parce que du coup, les jeux propulsés par l'apocalypse sont plutôt bien faits pour ça, je pense. La mécanique 2d6 plus machin, avec la résolution de la manœuvre qui t'amène à divers chemins, en fait, ça te permet d'avoir des solutions et des propositions pour la suite de ton aventure tout seul. Donc je trouve que ça tourne plutôt bien, et c'est pour ça que j'ai envie d'essayer celui-ci. Donc oui, carrément, même des choses plus classiques, notamment du old school, bien envie de tenter l'expérience justement avec d'autres mécaniques que celles des jeux propulsés par l'apocalypse pour voir comment ça pourrait tourner.
Et est-ce que tu l'envisages comme un outil pour préparer des parties ou juste un plaisir à part pour profiter du jeu, non plus en tant que meneur, mais en tant que joueur ?
Ouais, d'accord, ok, c'est sous cet angle-là que tu le vois.
C'est tous les angles que tu veux, hein, mais c'est aussi un angle qui m'intéresse.
Écoute, je suis moins curieux de l'aspect préparation de partie. Je suis vraiment, en fait, je suis, quand je joue en solo, je suis vraiment sur le plaisir solitaire. J'ai envie de me faire plaisir et de jouer. Et j'ai pas spécialement envie de partager ensuite, tu vois. Du coup, j'ai pas ressenti vraiment l'utilité ou l'idée de préparer une partie à venir avec plusieurs personnes en commençant par une phase solo. Non pas que l'idée est inintéressante, et très certainement que si je vois quelque chose qui me botte à ce sujet, je testerai. Mais en tout cas, pour le moment, je n'ai pas ressenti l'envie et je ne suis pas tombé sur quelque chose qui m'a dit « Waouh, en fait, ça pourrait être un bon outil.
» C'est quoi ton prochain solo, justement? Parce que tu disais que tu avais des envies et des projets.
Ah, mon prochain solo. Du coup, je pense que ça sera un jeu propulsé par l'Apocalypse. Alors, j'hésite. Ça peut être The Sprawl, ça peut être Apocalypse World. Ça peut même être Berlin 18, qui est en train d'être joué sur ma chaîne et qui est très très bien. Enfin, version COPS, mais on s'en fout. Ouais, je pense que ça sera un jeu comme ça. Je vais essayer de trouver diverses tables aléatoires qui pourraient m'aider à le faire tourner. Bon, pour The Sprawl, c'est tout trouvé avec le super bouquin Réalité Augmentée. Ou même du Dungeon World, pourquoi pas aussi, avec Donjon Kit de Kalren. Voilà, du coup, me dire, voilà, je pars sur un jeu que je connais avec une table, un jeu qui me plaît, donc ce que j'ai cité me plaise, et prendre des tables aléatoires pour m'accompagner et y aller. Donc je suis quelqu'un de très indécis et qui change énormément d'avis. Mais voilà, ça sera sûrement un de ces quatre-là.
Excellent. Bah écoute, je te remercie. Est-ce que tu as un truc à ajouter sur le jeu solo ou pour donner envie aux gens d'essayer peut-être?
Alors du coup, oui, je pense que c'est... moi, ça m'a beaucoup apporté, le jeu solo. Ça m'a apporté de la réactivité au niveau de la fiction émergente. C'est-à-dire que bah, quand tu es tout seul, du coup, il faut que tu te creuses un peu plus de cerveau pour trouver des choses. Et surtout, ça entraîne ton cerveau à rebondir sur des suggestions très simples. Par exemple, les oracles à Ironsworn, ben c'est un mot ou deux. Et du coup, tu dois faire en sorte que, avec ces deux mots, tu trouves quelque chose d'intéressant pour la suite et qui cadre avec ces deux mots. Donc, je trouve que c'est un exercice mental qui est loin d'être inintéressant et qui permet de se surprendre. Et on peut facilement ensuite s'en servir autour d'une table en disant, bon, ben voilà, les joueurs, là, ils partent sur ça et c'est qui ce PNJ? Ben, boum, tu... En fait, ça t'entraîne à rebondir et à te servir des tables aléatoires d'une bonne façon, je trouve.
Eh bien, écoute, merci beaucoup.
Parfait.
L'Arpenteur, méthode et outils. À l'heure où j'enregistre cet épisode pilote de l'Arpenteur, Pierre Gavard-Coligny, alias Saladin, vient de publier un petit guide du jeu de rôle solo. Vous pourrez retrouver ce livre de 214 pages au format poche chez Lulu ou DriveThruRPG. Si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer le jeu de rôle en solo, ce guide vous fournira une aide précieuse pour défricher le terrain et construire votre propre pratique. Considérons par exemple les questions qu'on pose souvent en JDR. Dans une partie en groupe, des personnes différentes posent et répondent aux questions soulevées pendant la partie. MJ. Alors que vous entrez dans le bureau du professeur Flambeau, vous constatez un désordre incroyable. Il y a des livres et des papiers partout, des tasses de café vides, où la vie commence à se développer, et une quantité inquiétante de canettes vides de Power Cola sur le sol. Rien d'inhabituel donc. Jusqu'à ce que vous aperceviez le corps du professeur effondré derrière son bureau, un rictus de terreur comme figé sur son visage. PJ. Est-ce qu'il est mort? MJ. Ça ne fait aucun doute. PJ. Il a l'air de regarder dans quelle direction? MJ. Vers le tableau noir couvert de craie qui lui fait face. D'ailleurs, tu te rends compte qu'on a effacé d'un geste rageur la solution aux équations sur lesquelles il travaillait. Dans ce bref échange, le joueur pose des questions et le MJ lui répond. Les responsabilités sont clairement attribuées. Il y a évidemment beaucoup d'autres modèles de fonctionnement en JDR. Mais comment cela se passe quand la même personne pose et répond aux questions? Dans le chapitre 7 du petit guide du jeu de rôle solo, « Comment ça fonctionne au juste ?», Saladin aborde le sujet en détail. En distinguant le « moi joueur » et le « moi MJ », on arrive à se positionner, mais ça ne suffit pas toujours. Pour ménager de la surprise et réintroduire un dialogue dans la partie, il suffit de faire appel à des oracles, c'est-à-dire à des systèmes capables de fournir des réponses aux questions que vous soulevez. L'auteur détaille ici deux types de questions, les questions fermées, auxquelles un simple oui ou non saurait répondre, et les questions ouvertes, qui demandent plus d'interprétation de la part du joueur. Plutôt que de répondre par un simple oui ou non aux questions fermées, Saladin nous propose d'utiliser un dé dit Omen, pour oui, mais et non, qu'on retrouvait déjà dans le système FU, pour du JDR en groupe.
À chaque valeur du dé, on attribue une réponse. Non et, non, non mais, oui, oui et. Moi, MJ. L'inspecteur Tornade entre dans le bureau du professeur Flambeau. C'est un désordre incroyable. Il y a des livres et des papiers partout, des tasses de café vides où la vie commence à se développer, et une quantité impressionnante de canettes vides de Power Cola sur le sol. Rien d'inhabituel, donc. Jusqu'à ce qu'il aperçoive le corps du professeur effondré derrière son bureau. Moi, PJ. Est-ce qu'il est mort ? Oracle des Omen. Oui et. Moi, MJ. Ça ne fait aucun doute. Et son visage semble figé dans un rictus de terreur. Les questions fermées ne permettent pas à elles seules de gérer toutes les situations. Les oracles peuvent aussi apporter des réponses aux questions ouvertes. On utilise alors des supports différents, plus riches, comme des tables aléatoires, des cartes ou des listes de mots-clés. Une part d'interprétation sera nécessaire pour le joueur solitaire. Et c'est souvent ce qui fait le sel de la pratique. Construire une situation à partir de quelques mots d'inspiration et de contraintes qui structurent notre réponse. Moi, PJ. Il a l'air de regarder dans quelle direction. Oracle, table aléatoire, mots-clés, science et mystère. Moi, MJ. Vers le tableau noir couvert de craie qui lui fait face. On a d'ailleurs effacé d'un geste rageur la solution aux équations sur lesquelles il travaillait. La réponse aurait pu être différente, mais elle paraît appropriée en s'inspirant des mots-clés tirés et de la situation décrite précédemment. La gymnastique intellectuelle utilisée ici est proche de celle utilisée par les MJ dans une partie en groupe, ou par la personne chargée d'assurer ce rôle à ce moment de la partie dans les jeux sans MJ, mais c'est un autre sujet. C'est un exercice d'improvisation qui peut être particulièrement intéressant et qu'on peut trouver plus facile en jeu solo. Il n'y a personne pour juger de nos réponses, personne avec qui installer des malentendus, et on est capable, en général, de suivre ses propres envies d'ambiance et de thème, même en se laissant la surprise sur les détails. Le petit guide du jeu de rôle solo ne s'arrête pas là. Dans le chapitre 16, Techniques et outils, le sujet des questions est à nouveau abordé, sous la forme d'une série de conseils pour améliorer l'utilisation qu'on en fait. Saladin nous propose par exemple de ne pas hésiter à poser des questions directes et importantes, même si le résultat peut être extrême. En intensifiant les enjeux, de cette manière, on introduit une forme de tension dans l'expérience qui augmentera souvent son intérêt. Il nous rappelle aussi de ne pas passer trop de temps sur l'interprétation des oracles et de ne pas hésiter à faire de nouveaux tirages si le résultat du premier ne nous inspire pas. Moi, PJ. Il a l'air de regarder dans quelle direction ? Oracle, table aléatoire, mot-clé météo. Moi, MJ. Ouais. Oracle, table aléatoire, mot-clé science. Moi, MJ. Ah, là on parle. Des conseils de bon sens. Qu'il est bien agréable de voir rassembler au même endroit et qui donne des idées même aux joueurs expérimentés. Voilà pour notre premier numéro de l'Arpenteur. J'espère qu'il vous aura plu et donné envie de tenter l'expérience du jeu solo si vous ne le pratiquez pas encore. Vous pouvez retrouver Iron Swan en version gratuite sur ironswan.pbta.fr, Samuel Zitterman sur sa chaîne Twitch, donc www.twitch.tv/s_Zitterman ou sur YouTube, et le petit guide du jeu de rôle solo sur www.onirarts.com/solo. Quant à nous, dans le prochain épisode de l'Arpenteur ou sur le serveur Discord JDR Solitaire. D'ici là, bon voyage en solitaire.